VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du lundi 15 août 2016, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
En République démocratique du Congo, deuil national après les nouveaux massacres de civils à Beni, dans l'est du pays.
Au Niger, nouvelle donne politique, le MNSD Nassara quitte l'opposition et rejoint la majorité présidentielle.
Au Nigeria, le gouvernement se dit en contact avec Boko Haram après la publication d'une nouvelle vidéo sur les lycéennes de Chibok.
En Syrie, après la reprise de Minbej dans le nord, la coalition arabe et kurde, appuyée par les États-Unis, vise maintenant la ville d'Al-Bab, près de la frontière turque.
Présidentielle américaine, le candidat républicain Donald Trump doit présenter ce lundi son plan de lutte contre le terrorisme international.
Et ne manquez pas notre journal des Jeux Olympiques ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au moins 42 civils, selon un nouveau bilan officiel, ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un massacre attribué par l'armée de la RDC à des rebelles musulmans ougandais ADF. Ce bilan a été donné par le maire de Beni, Edmond Masumbuko. Le président de la société civile de Beni, Gilbert Cambalé, a parlé, lui, d'un bilan provisoire de 46 personnes tuées et 34 maisons brûlées. Un deuil national a été proclamé après cette tuerie qui a provoqué la colère de la population et intervient après une succession de massacres qui ont déjà fait plusieurs centaines de morts en moins de 2 ans. De Goma, capitale du Nord Kivu, Charlie Kasereka fait le point.
Pour l'armée congolaise, l'ennemi voulait s'infiltrer dans la ville de Beni. Il a été intercepté par des forces en patrouille et c'est dans sa fuite qu'il s'en est pris aux civils. L'armée pense déjà à des nouvelles stratégies, telles que l'est dit ici le commandant de l'opération Sokola 1, le général Marcel Mbangu.
C'est effectivement le changement de cette couleur que nous portons, donc la tenue militaire que nous portons. Cela permet de distinguer qui se retrouve devant cette population.
Le ministre congolais de la Défense, quant à lui, fait appel à la solidarité internationale pour éradiquer cette rébellion des ADF, Alliance Démocratique Force. Crispin Ataman.
C'est pratiquement le même combat de type que Boko Haram a été mené au Nigeria. Je pense que la communauté internationale devra prendre conscience de la difficulté que nous avons. L'ennemi fluide passe par derrière, se divise dans la population et massacre cette dernière. Dès que le combat sera de longue haleine, on finira par gagner.
Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de ce lundi 15 août. Les ministres congolais de la Défense annoncent le début dès ce mardi d'un procès public et des présumés ADF attrapés depuis le début de l'opération. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Toujours au Congo, l'armée a annoncé hier avoir arrêté dans l'est du pays le responsable de la sécurité du chef rebelle Hutu rwandais Sylvestre Muda Kumura, recherché par la justice internationale. Selon les FARDC, Patrick Sabimana a été arrêté au cours d'une opération commando menée contre lui jeudi à Katsiro.
Au Mali, une rencontre a commencé vendredi dernier à Bamako sous la présidence du haut représentant du chef de l'État pour la mise en œuvre de l'accord de paix, le général Mahamadou Diagouraga. Deux principaux sujets sont à l'ordre du jour, l'arrêt définitif des affrontements à Kidal et la reprise du processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Précision de Kassim Traoré.
Autour de la table sont réunis les délégués de la CEMA, de la plateforme, en présence d'un représentant de l'Algérie, chef de file de la médiation internationale. Prenant part également à la rencontre la MINUSMA, la CEDEAO, l'Union européenne, les participants sont répartis en 2 groupes de travail. Le premier groupe est chargé des questions sécuritaires et l'autre traite des questions politiques et institutionnelles. Malgré cette initiative, certains groupes sont toujours sur le pied de guerre. C'est ainsi qu'on apprend qu'à Kidal, un groupe d'une vingtaine de pick-up a quitté la ville pour prendre position à 20 kilomètres au sud de la capitale de l'Adra des Ifogas et qu'un autre groupe de la CEMA est aussi en préparation opérationnelle à Iguzar, route Tenensaku, ce qui fait craindre une action militaire de la CEMA contre les positions de la plateforme. Sur le terrain, les assassinats ciblés ou tentatives d'assassinat se poursuivent à Tomoktou. Mohamed Ould Jaï, un chef militaire du MAA plateforme, a été victime d'une tentative d'assassinat et a été atteint par 3 balles. Il faut rappeler que la semaine dernière, les corps sans vie de 3 Arabes ont été découverts au nord de la ville de Tombouctou, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, recomposition du paysage politique moins de 6 mois après la réélection de Mahamadou Issoufou à la tête du pays pour un mandat de 5 ans. Le MNSD Nassara, deuxième force politique de l'opposition, s'est rallié pendant le week-end à la majorité, fragilisant du coup une opposition qui souffre déjà de l'absence de son chef Amadou. De Niamey, les détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le bureau politique national du MNSD Nassara a décidé de répondre favorablement à l'appel du président de la République Issoufou Mahamadou à lancer à la presse le secrétaire général du parti Abdelkadri Tijani au sortir d'une réunion qui a duré toute la journée de ce samedi. La raison qui justifie cette décision, sauvegarder l'intérêt national du pays. Le président du parti, Seni Oumarou, a été mandaté pour entamer les démarches nécessaires pour la concrétisation de cette décision souveraine. La deuxième force politique de l'opposition rallie ainsi la mouvance présidentielle un peu plus de 5 mois après la réélection du président Issoufou Mahamadou. Ce dernier avait en effet, dès le lendemain de sa victoire, souhaité former un gouvernement avec la participation de l'opposition pour faire face, disait-il, aux nombreux défis que le pays doit relever. Les partis de l'opposition avaient alors rejeté cette main tendue, comme ils l'ont d'ailleurs fait au premier mandat, même si en 2013, une partie des militants du même MNSD Nassara avait rejoint la majorité présidentielle. Cette fois-ci, c'est presque à l'unanimité que le parti de l'ancien président Tanja Mamadou décide d'aller à la majorité puisque seuls 3 des 166 responsables du parti qui étaient présents à la réunion de ce samedi se sont opposés. L'opposition politique, déjà orpheline de l'absence de son chef de file, Mahamadou, qui se trouve en France, se trouve ainsi encore une fois fragilisée selon beaucoup d'analystes. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Nigeria, le ministre de l'Information, Lai Mohamed, a affirmé que son gouvernement était en contact avec les auteurs présumés d'une nouvelle vidéo de Boko Haram publiée sur les réseaux sociaux, vidéo qui montrerait une 50aine de lycéennes de Chibok enlevées en 2014. Affirmant que plusieurs d'entre elles sont mortes, Boko Haram a demandé un échange de prisonniers contre celles encore en vie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, une coalition de combattants appuyée par les États-Unis dit qu'elle va maintenant cibler une localité tenue par le groupe État islamique près de la frontière turque, et ce, après avoir chassé récemment les djihadistes de leur fief stratégique de Minbej, dans le nord. Les forces démocratiques syriennes, une alliance de combattants arabes et kurdes appuyée par l'aviation américaine, a annoncé hier la création du conseil militaire d'Al-Bab. La libération de cette ville et de ses environs rendrait plus difficile toute infiltration de combattants et fourniture de ravitaillement aux djihadistes.
Ici aux États-Unis, la police de New York est toujours à la recherche de l'homme qui a tiré à bout portant sur un imam de la ville et son adjoint samedi, alors qu'ils quittaient leur mosquée après les prières de l'après-midi.
À Milwaukee, dans le Wisconsin, le maire de la ville, Tom Barrett, a annoncé que la garde nationale sera déployée en cas de trouble après la mort d'un autre Africain-Américain abattu par la police. 6 commerces ont été brûlés, des véhicules de police détruits, une adolescente blessée par balle, plusieurs policiers blessés et 17 personnes arrêtées dans la nuit de samedi à dimanche lors des heures consécutives à la fusillade.
Le sud des États-Unis dévasté par de nouvelles inondations. Les eaux continuent à monter, a averti dimanche le gouverneur de la Louisiane, l'un des États les plus affectés. Précision de Timothée Donangmaï.
Des membres de la garde nationale, des gardes-côtes et des équipes civiles ont évacué quelques 7000 personnes dans le sud-est de la Louisiane. Selon le gouverneur John Bel Edwards, au moins 3 personnes ont péri et une autre est portée disparue. Plus de 50 cm de pluie se sont abattus sur certaines parties de la Louisiane la semaine dernière. Le déluge est centré autour de Baton Rouge, la capitale de l'État. Il a forcé le gouverneur Edwards à évacuer sa famille de la résidence officielle. L'État voisin du Mississippi est également affecté. Les mêmes régions avaient été inondées plus tôt cette année, faisant au moins 4 morts. Hier, la météo américaine a lancé des avis de soudaine montée des eaux le long d'un arc s'étendant de la côte du Texas au sud à la vallée de l'Ohio plus au nord.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
À présent, le journal des Jeux Olympiques sur VOA Afrique avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Usain Bolt est bien l'homme le plus rapide de l'histoire et il a encore prouvé hier soir à Rio.
Oui, l'éclair, la foudre, Usain Bolt a encore frappé hier sur la piste au Brésil comme à Pékin en 2008, puis Londres en 2012. Le Jamaïcain remporte la finale du 100 mètres. Retour sur ce triomphe avec Jean-Roger Billon.
Souvent lent à se mettre en route en raison de sa grande taille, Usain Bolt a fait le deuxième plus mauvais départ de cette finale. Le Jamaïcain est alors obligé de passer à la vitesse supérieure pour revenir sur les talons de l'Américain Justin Gatlin. Dans les derniers 30 mètres, Gatlin semble plafonner et Bolt en profite pour revenir à sa hauteur et dans le même mouvement, doubler son principal rival. Le Jamaïcain franchit la ligne sur sa lancée et lève aussitôt l'index de la main droite pour célébrer sa victoire. Bolt stoppe le chronomètre à 9 secondes 81 centièmes. Loin de son record du monde 9 secondes 58 centièmes, mais suffisant pour entrer à jamais dans l'histoire des Jeux Olympiques. Le Jamaïcain Usain Bolt a été sacré champion olympique du 100 mètres et devient le premier athlète de l'histoire à remporter trois fois l'épreuve reine du sprint dimanche aux Jeux de Rio. Bolt, déjà sacré sur la ligne droite en 2008 à Pékin et 2012 à Londres, a devancé l'Américain Justin Gatlin, médaille d'argent, et le Canadien André De Grasse, médaille de bronze.
A vida pois nada vem fácil, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão.
Outra performance incroyable hier sur 400 mètres cette fois. Et un Sud-Africain qui décroche la médaille d'or et bat le record du monde.
Van Niekerk, 24 ans, déjà champion du monde en 2015, a devancé les deux derniers champions olympiques, le Grenadin Kirani James, sacré en 2012, et l'Américain LaShawn Merritt en 2008. Autre exploit de Wade Van Niekerk, le Sud-Africain a battu le record du monde de Michael Johnson, qui tenait depuis 17 ans. Il a remporté la finale en 43 secondes et 3 centièmes.
Les autres résultats de ce dimanche pour les Africains à Rio.
L'Éthiopienne Genzebe Dibaba, championne du monde en titre et détentrice du record du monde, s'est qualifiée pour la finale du 1500 mètres en dominant la seconde demi-finale en 4 minutes, 3 secondes et 7 centièmes. La finale est programmée dans la nuit de mardi à mercredi. Les sports collectifs, en handball, battu par les Espagnols 22-26, les Angolaises affronteront les Russes en quart de finale. Nouvelle défaite du Sénégal, c'est du basket féminin, 88-95 face à la Serbie. Assou Traoré a réussi un gros match pour les championnes d'Afrique avec 30 points. Déjà éliminées du tournoi olympique, les volleyeuses camerounaises ont une nouvelle fois été complètement dépassées lors de leur dernier match. Elles ont essuyé leur cinquième défaite en cinq rencontres contre la Corée du Sud. Avec un point, les Lyonnes terminent dernière du groupe A. En boxe, en moins de 56 kilos, le Marocain Mohamed Hamout s'est fait sortir en huitième de finale par le Cubain Martinez. Bilel Hamdi a connu le même sort. En moins de 80 kilos, pas de médaille pour l'Algérie avec Abdelhafid Benchabla. Comme en 2008 et en 2012, le Milour s'incline encore en quart de finale. En haltérophilie, quatrième place pour Shamaya Hardy en moins de 75 kilos. L'Égyptienne finit au pied du podium avec 278 kilos soulevés.
Retour sur le beau parcours des Nigérians qui se poursuit dans le tournoi de football.
Belle victoire 2-0 des Super Eagles face aux Danois, c'était samedi. Le Nigeria s'est qualifié avec brio pour les demi-finales où il affrontera l'Allemagne mercredi. Les détails avec Thierry Kambundi à Rio de notre station partenaire Top Congo FM.
Amené par le capitaine John Obi Mikel qui a montré l'exemple en ouvrant le score dès la 15e minute, les Nigérians ont ensuite corsé l'addition à la 59e par Aminu Umar, une nouvelle fois sur un service de John Obi Mikel, buteur et passeur décisif pour écarter le Danemark et se qualifier pour les demi-finales. Ce mercredi 17 août à Sao Paulo, l'équipe du Nigeria, entraînée par Samson Siasia, affronte l'Allemagne, tombeur du Portugal en quart et meilleure attaque de ses JO avec 19 buts en 4 matchs. Vainqueur du tournoi et médaillé d'or en 1996, le Nigeria peut encore, 20 ans après la génération Nwankwo Kanu, rêver de la plus belle des récompenses à ses JO. De Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
On rappelle au classement des médailles, les États-Unis toujours premiers devant la Grande-Bretagne et la Chine.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Les banques kényanes ont accepté de réduire leur taux d'intérêt alors que le président Uhuru Kenyatta s'apprêtait à signer un projet de loi les obligeant à agir en ce sens. Elles se sont également engagées à éliminer certains frais non liés aux intérêts. Ces banques se sont longtemps vu reprocher leur taux d'intérêt élevé sur le prêt allant jusqu'à 24%. Après promulgation de la loi, les taux des prêts bancaires seront établis à 14,5%. Accord préliminaire de 12 milliards de dollars entre le FMI et l'Égypte sur un programme de réforme économique de 3 ans. L'objectif est de réduire le déficit et de libérer des fonds publics pour les dépenses prioritaires telles que les investissements dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation et de la protection sociale, a souligné le fonds dans un communiqué. Les députés ivoiriens ont donné leur feu vert pour la ratification d'un accord intérimaire de partenariat économique avec l'Union européenne. La Côte d'Ivoire a signé l'APE en 2008 pour éviter une taxation de ses produits à l'entrée des ports européens. L'APE intermédiaire permet de préserver cet acquis dans l'attente de la ratification de l'accord régional au niveau de la CEDEAO.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Y aurait-il un procès des massacres de Doukoué dans l'ouest ivoirien devant la CPI? C'est en tout cas l'espoir, dit-on, de milliers de victimes du conflit post-électoral de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Elles se disent à bout de patience et ont donc décidé de réunir des preuves des exactions contre elles. Des preuves qui ont déjà été portées devant la Cour pénale internationale. Maître Abiba Touré, qui les représente, dit qu'elle ne comprend pas pourquoi ce dossier traîne depuis 5 ans au niveau de la CPI.
La Cour pénale internationale avait ouvert une enquête en octobre 2011 sur les graves crimes intervenus en Côte d'Ivoire. Il revenait donc au bureau du procureur de la CPI d'enquêter et de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que ce même bureau du procureur, à qui il a fallu 1 mois pour délivrer un mandat d'arrêt, ait été incapable en 5 ans de délivrer des mandats d'arrêt concernant les auteurs de ce génocide et des exactions qui ont suivi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement en mars 2011, il y a eu ce grand massacre. Mais ils ont récidivé en juillet 2012 lorsqu'ils ont attaqué le camp de déplacés de Naïbli. Donc on s'étonne qu'avec tous ces faits et ces actes de violence réitérés, que Madame le procureur ne juge pas utile encore de délivrer des mandats d'arrêt alors qu'il y a des éléments probants, des témoignages probants et de diverses sources, hein, que ce soit les victimes elles-mêmes ou les ONG. Donc les victimes ont décidé de dénoncer ces crimes-là auprès d'elles en lui fournissant tous les éléments dont elle a besoin pour pouvoir procéder à la délivrance des mandats d'arrêt.
Est-ce que le fait que la CPI n'a plus lancé de mandat d'arrêt, c'est pas parce que les autorités ivoiriennes ont dit entre-temps qu'elles étaient aussi capables maintenant de juger les dossiers?
Alors il y a 2 choses. Madame le procureur ne dit pas « je ne vais pas enquêter, je ne vais pas poursuivre ». C'est pas ce qu'elle dit. Elle dit les enquêtes se poursuivent. Donc, si elle estimait que les autorités ivoiriennes étaient à même de mener ces enquêtes-là, elle aurait indiqué. En ce qui concerne les autorités ivoiriennes elles-mêmes, mais vous pouvez pas demander à des gens qui sont suspectés d'être les auteurs et les commanditaires de ces massacres, de se juger eux-mêmes. Ce n'a pas de sens. Et les dispositions du statut de Rome sont claires. Dès lors que l'État n'a pas la volonté véritable de poursuivre ces auteurs-là, la CPI doit en tirer les conséquences. En 5 ans, il est évident que les autorités ivoiriennes n'ont rien fait et elles ne peuvent rien faire vu qu'elles sont elles-mêmes accusées. Il revenait donc à Madame le procureur de faire les diligences en vue de la délivrance des mandats d'arrêt.
Donc en ce moment, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec les victimes? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain?
Sur le terrain, on s'organise. Il y a la collecte d'éléments de preuves, de dénonciations de crimes, de témoignages. Tout est collecté, tout est analysé pour être ensuite déposé auprès de la Cour pénale internationale afin que ça justifie la délivrance des mandats, mais surtout que les enquêteurs, forts de ces éléments, puissent aller sur le terrain et vérifier par eux-mêmes les éléments de preuve qu'on leur a remis.
Maître Abiba Touré répondait aux questions de Bagassi Koura ici dans les studios de VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
En République centrafricaine, la mobilisation se poursuit pour venir à bout de l'épidémie de choléra. Parmi les mesures mises en place, le lavage systématique des mains au savon avant d'accéder à certaines institutions. C'est le cas de certains hôpitaux de Bangui. Les précisions de notre correspondant Freeman Sipila.
Quelques jours après la confirmation de l'épidémie, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. On compte déjà 16 décès liés à cette maladie pour 66 cas suspects enregistrés à Bangui dans le centre du pays. Pour venir à bout de cette épidémie, le gouvernement et ses partenaires ont mis en place des approches de prévention et de riposte. Souleymane Sow, coordonnateur du programme eau et assainissement à l'UNICEF.
Le premier front, donc, c'est le front de la prévention que nous appelons ici le front bouclier. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que toutes les cibles, tous les villages, toutes les embarcations, tous les quartiers qui sont considérés comme des quartiers à risque sont investis pour que des actions de prévention y soient menées. Le deuxième front d'action, c'est l'action qu'on appelle l'action coup de poing, une action commando qui touche les zones, les villages, les quartiers au sein desquels nous avons déjà rapporté des cas.
Le choléra domine désormais toutes les conversations ici à Bangui. En plus des spots de prévention passés en boucle dans les radios, des mesures d'hygiène sont aussi prises dans des hôpitaux. À l'hôpital communautaire de Bangui, une dizaine de bacs à eau colorée sont installés. Toutes les personnes qui veulent fréquenter les locaux de l'hôpital doivent systématiquement laver leurs mains à l'entrée et à la sortie. Je me suis lavé les mains avant d'entrer ici. Je pense que c'est important pour nous de le faire pour barrer la route à cette maladie, explique cette dame. Un site de transit est aussi installé dans ce centre hospitalier. Docteur Paterne Timbeti, directeur de l'hôpital communautaire.
Ici chez nous, ce n'est pas un centre de traitement, non. C'est juste un centre d'accueil et de dépistage. Et la personne est référée là-bas. Mais vous allez me poser la question que est-ce qu'on va croiser le bras ou bien les mains pour voir la personne en train de vomir, en train de faire sa diarrhée sans qu'on le remonte? Non, on est personnel de santé, on sera obligé d'administrer les premiers soins. Mais le reste des soins, ça sera fait directement là-bas au niveau du centre de traitement.
Au centre de prise en charge des épidémies, on se réserve de toute déclaration sur le nombre des victimes ou de leur prise en charge. Cependant, certains parents des malades rencontrés devant ce centre se réjouissent de l'amélioration de la santé de leurs proches. Le fils de Salomon Mandaba est admis depuis samedi dans ce centre.
Il est victime de cette maladie envers 17h hier, qu'on avait fait la transmission ici. Il a dormi hier ici et présentement, je suis sur lui. Il est déjà quand même en force.
Selon des sources proches du département de la santé, l'épidémie de choléra qui frappe actuellement la République centrafricaine sévit également de l'autre côté du fleuve Oubangui, en face de la commune de Ndjoukou, notamment dans la région de Libye, en République démocratique du Congo. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24h sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Le Congo-Brazzaville fête ce lundi 15 août le 56e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, le gouvernement a organisé les festivités à Madingou, dans le sud, où de nombreuses infrastructures ont été construites. De Madingou, reportage de notre correspondant Nguela Ngoussou.
Les populations de la Bouenza ont dans leur majorité salué ce désenclavement grâce aux nouvelles routes bitumées, des infrastructures construites à l'occasion de la célébration tournante de la fête de l'indépendance et qui assurent aujourd'hui la fluidité des transports.
Le transport ici est un peu difficile parce que mauvais état de route et or maintenant c'est rapide et on peut faire aller-retour à Brazzaville. 350 km aller-retour.
C'est appréciable, hein, parce que là, je viens de Caï avec ma moto. J'ai fait que 28 minutes, pratiquement 30 minutes. Alors que hier, c'était pas comme ça. Hein. Hier, il faut purger pratiquement au moins 2h, 3h de Caï à Madingou. Voilà, donc tout a changé.
Mouyonzi, Pointe Noire, avec 5 heures du temps, vous êtes à Pointe Noire. Vraiment, félicitations. Nous sommes Mouyonzi. Je suis précisément à Yamba.
Pour le préfet de la Bouenda, Célestin Tombekende, ces routes ont modernisé les conditions de vie des populations qui vivent dans son département. La Bouenza est un département à vocation agricole. Le manioc, le foufou, l'igname, la banane ou l'arachide poussent même sur du roc, affirment les agriculteurs avec ironie. Avec la route, la commercialisation de ces produits agricoles est donc assurée.
Mais justement, la route est faite comme ça, là. Hein? Ça profite aux parents cultivateurs. Hier, il y a des marchandises. C'est vrai que les parents cultivaient, mais il n'y avait pas moyen de faire sortir les marchandises dans des grandes villes. Mais maintenant, il y a beaucoup de facilité et ça pousse aux parents aussi de beaucoup travailler.
Madingo est à vocation agricole. On doit beaucoup plus améliorer sa vocation, pas améliorer les fonctions des personnes. Le paysan doit profiter de la route, sinon c'est d'autres personnes qui vont profiter de la route. Nous sommes dans une économie de marché aujourd'hui. Demain, avec l'intégration, c'est d'autres personnes qui vont bénéficier de la route.
Ces travaux ont coûté 90 milliards de francs CFA sur 500 milliards prévus cette année. Ce n'est qu'un processus, a rassuré le ministre en charge des grands travaux, Jean-Jacques Bouya. L'évêque catholique de la Bouenza, Mgr Daniel Mizonzo, qui sillonne régulièrement le département, rappelle tout de même que ces efforts doivent se poursuivre.
Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, particulièrement les ponts. Je pense, j'avais fait le tour à Bokosongo, mais à Bokosongo, même les tournées, on ne peut pas le faire, même à Jakarta, parce qu'il y a des ponts qui sont cassés, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais j'espère que les responsables des municipalités et des districts pensent sur tous ceux qui se positionnent pour les législatives et les locales. Ils doivent penser à des routes. Et quand les gens m'ont dit, mais ils ont produit, on vient pas, hein, il manquait des routes. Et j'ai fait aussi une lettre pastorale sur les routes. Ben, pour le début, c'est bon. Je suis satisfait.
Madingu dans la Bouenza, Nguela Ngoussou. VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville sur le 101.9 FM.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump doit présenter aujourd'hui son plan de lutte contre le terrorisme international, un discours clé dans une campagne électorale tout à fait inhabituelle ici aux États-Unis. Le point avec Timothée Donangmaï.
En dehors de la lutte contre le terrorisme, les leaders républicains espèrent que Donald Trump s'attellera à recentrer le débat sur la campagne proprement dite et à faire ainsi oublier les nombreuses controverses qu'il a déclenchées et qui brouillent son message électoral. La dernière en date était son attaque de la semaine dernière contre le président Obama et son ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. Tous les deux ont, par leur politique, créé le groupe État islamique, a répété le candidat républicain à divers meetings, à la grande joie de ses plus fervents partisans. Et j'ai toujours dit que Barack Obama en est le fondateur. Barack Obama, d'un, est incompétent, et de deux, souvenez-vous-en, de deux, il est le fondateur dans le vrai sens.
He is the founder. In a true sense.
Donald Trump soutiendra par la suite qu'il se voulait tout simplement sarcastique, mais le mal était fait. Ces déclarations ont suscité de vives réactions chez les démocrates, bien sûr, mais aussi chez certains républicains. Dimanche, l'équipe de campagne de Trump est revenue à la charge, accusant la presse de s'être livrée à la distraction. « Si la dégoûtante presse me couvrait honnêtement et ne trouvait pas de faux sens aux mots, je serais en train de battre Hillary de 20%, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Une reconnaissance implicite de l'écart qui continue de se creuser entre lui et la candidate démocrate. Rien n'est perdu pour autant, assure le camp Trump. S'exprimant dimanche sur la chaîne de télévision ABC, l'un des partisans de l'homme d'affaires, le sénateur républicain Jeff Sessions, a donné un avant-goût de son plan pour défaire le groupe État islamique. Il va parler de comment restaurer notre crédibilité auprès de nos alliés et nos amis dans la région qui sont tout aussi hostiles à ce terrorisme et qui y résistent. Il va dire comment cibler vos ennemis et œuvrer avec vos amis sans déstabiliser des pays à la manière d'Obama et de Clinton. Le candidat républicain devra présenter les points spécifiques de son plan, a fait savoir pour sa part Léon Panetta, ancien directeur de la CIA et ancien secrétaire à la Défense sous l'administration Obama, qui s'exprimait lui aussi sur la chaîne ABC dimanche. Frustré par l'indiscipline de Trump dans sa campagne, d'autres républicains ont décidé de lui fausser compagnie. Certains, comme Carlos Gutiérrez, ancien secrétaire au commerce du président George W. Bush, allant jusqu'à annoncer leur soutien à la démocrate Hillary Clinton.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.